Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Le président des États-Unis, Joe Biden, semble plus que jamais sous pression. En l'espace d'une semaine, près de 15 000 migrants sont entrés sur le territoire américain, principalement des Haïtiens. Ils se sont installés dans un camp de fortune à Del Rio, au Texas, près de la frontière mexicaine. Et pour faire face à cet afflux migratoire, Washington a décidé de procéder à des expulsions massives vers Haïti. Mais le traitement infligé à ces migrants a entraîné une vague d'émotions et indigne jusque dans le camp démocrate. Dernier fait en date, la démission aujourd'hui de l'émissaire américain en Haïti. Il a expliqué qu'il refusait d'être associé à cette politique qu'il qualifie d'inhumaine. Joe Biden avait pourtant promis à son arrivée au pouvoir de mener une politique migratoire justement plus humaine que celle de son prédécesseur Donald Trump. Alors comment en est-on arrivé là? Quel est le sort des migrants massés de part et d'autre de la frontière? Et quelles peuvent être les conséquences humanitaires, politiques et géopolitiques de cette crise? C'est le décryptage du jour, soyez les bienvenus. Nous sommes en ligne avec Elisabeth Vallée, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez l'Observatoire de géopolitique à la chaire Raoul Dandurand à l'Université de Québec à Montréal. Vous êtes également directrice de l'antenne québécoise de Borders in Globalization, un consortium de recherche pan-canadien et international qui étudie les frontières contemporaines. Et nous avons également le plaisir de recevoir Thomas Harms, correspondant de RFI à Houston, de retour de reportage à Del Rio aux États-Unis et à Ciudad Acuña au Mexique. Bonsoir Thomas.
Bonsoir. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous.
Alors ces deux villes, Thomas Harms, c'est à vous que je pose la première question puisque vous revenez tout juste de reportage. Ces deux villes, elles sont séparées par le fleuve Rio Grande. C'est le point de passage de ces milliers de migrants. D'abord, quelle est, Thomas, la première image qui vous revient en tête et qui pourrait, selon vous, résumer la situation de tous ces candidats à l'exil?
Alors, l'image la plus troublante, c'est celle de ces Haïtiens qui attendent au bord du fleuve Rio Grande. Ils ont juste 280 pas à faire pour aller aux États-Unis. Et ceux que j'ai rencontrés étaient allés au Mexique, donc à la Ciudad Acuña, pour aller acheter à manger pour leur famille. Après avoir passé plusieurs jours dans la poussière et les détritus, à dormir quasiment sans ombre, avec 15 000 personnes autour, sous un pont à Del Rio. Et alors, ces Haïtiens arrivés au Mexique venaient d'apprendre que les États-Unis avaient repris les expulsions. Et je m'en souviens... C'était assez fort, ils étaient assis devant ce fleuve, Rio Grande, et ils ne savaient plus qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient désespérés, la plupart avaient laissé leur famille dans le camp. Et du coup, ils se demandaient, est-ce qu'il faut retourner au Chili, au Brésil, retourner dans le camp pour risquer d'être expulsé? C'est toute l'interrogation. J'ai quand même deux autres petites anecdotes qui vont illustrer le traitement de ces migrants. J'ai vu au même endroit, mais du côté américain, des gardes frontières avec leur chapeau de cow-boy montés sur des chevaux, et ils bloquaient l'entrée aux États-Unis après ce guet sur lequel traversaient les migrants pour passer du Mexique aux États-Unis. Et ils bloquaient l'entrée des journalistes, en fait. Les Haïtiens, qui eux revenaient chargés de nourriture, pouvaient entrer dans le camp. Ils ne pouvaient plus en sortir, mais ils pouvaient y entrer. Et l'autre souvenir que j'ai, en parallèle de celui-ci, c'est à l'arrêt de bus de Del Rio, en fait une simple station d'essence, eh bien, je vois deux militaires arriver. L'un porte une cagoule qui cache entièrement son visage. Il fait 37 degrés dehors. Il s'approche de nous, on est à l'ombre. J'étais en train d'interviewer des Haïtiens. Et celui qui est le plus haut gradé, eh bien, il commence à distribuer du chocolat, des gâteaux et des bonbons. J'en suis resté sans voix.
Effectivement, une anecdote plutôt étonnante. Et Elisabeth Vallée, dans ces 15 000 personnes qui sont arrivées la semaine dernière à Del Rio, donc principalement des Haïtiens, qu'est-ce qu'on sait de leur itinéraire avant d'arriver à Del Rio au Texas? Par où est-ce qu'ils passent? Et combien de temps, en fait, ils mettent à arriver? Est-ce que c'est un voyage qui se fait sur plusieurs années ou est-ce que c'est un voyage de quelques jours, quelques semaines?
Ça dépend de quel point de départ on parle. Certains sont partis après le tremblement de terre en Haïti, se sont rendus en Amérique latine, et là, à la faveur d'une disposition qu'a énoncée Joe Biden, qui ne les concerne pas, mais qui, où l'impression a été que ça pouvait les concerner, Joe Biden a expliqué que les Haïtiens qui étaient présents en sol états-unien pourraient y rester, ils seraient temporairement, continueraient à être temporairement protégés du processus d'expulsion. Alors l'information a circulé de manière volontaire ou involontaire, et on pourra en reparler, mais a été transformée. Et donc certains ont pensé que s'ils remontaient assez rapidement aux États-Unis, eh bien, en sol américain, ils pourraient eux aussi bénéficier de cette protection, alors qu'il s'agissait simplement des Haïtiens qui se situaient en sol états-unien au 29 juillet. Donc c'est ce mouvement, s'il part d'Haïti, peut avoir pris plusieurs années, mais en tout cas plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains, qui vont être remontés à travers les différents pays, selon différents moyens. Pour certains, la trajectoire la plus dangereuse va être de passer à travers la jungle du Darién, qui est vraiment l'entrée dans le Panama, où il n'y a pas de garde-frontière, parce que on considère que cette frontière est tellement infranchissable. Alors, il y a tout un tas de reportages qui ont été faits là-dessus, certains par nos collègues de Radio-Canada, par Martine Movilla, qui racontent justement à quel point pour vouloir faire ce trajet en connaissance de cause, parce qu'ils sont informés, il faut vraiment que le niveau de désespoir soit très élevé, et il l'est en raison du fait qu'en Amérique latine, la COVID a frappé fort, et que les gens qui vivaient, comme le disait Thomas, au Brésil, par exemple, au Chili, eh bien, avec plus de mal à subvenir à leurs besoins. Donc, l'espoir que de laisser poindre Biden suffisait à se mettre en mouvement.
Thomas Harms, quel est le profil des personnes que vous avez pu rencontrer à cette frontière ? Est-ce qu'il s'agissait d'hommes seuls, de familles ? Est-ce que vous avez vu des enfants ?
J'ai vu beaucoup d'enfants, j'ai vu des femmes enceintes, des hommes seuls. J'en ai vu du côté mexicain. Parce que du côté américain, les hommes seuls, a priori, sont expulsés. D'après les informations qu'on a actuellement, ceux qui peuvent rentrer sont soit les femmes enceintes, soit les familles, en fait. Donc les hommes seuls restent du côté mexicain.
Alors justement, je voudrais qu'on écoute un son que vous avez recueilli, Thomas, lors de votre reportage à Del Rio. C'est le maire démocrate de la ville, Bruno Lozano, qui s'exprime. Il demande aux habitants de la ville de ne plus donner de nourriture aux migrants. On l'écoute et on commentera dans un instant.
Nous savons que beaucoup veulent aider, mais nous vous demandons de ne plus apporter à manger, à moins que nous vous le demandions. On ne veut gâcher aucune nourriture qui se périme très vite sous nos fortes chaleurs. Donc attendez que les gardes frontières vous contactent.
Thomas Harms, comment la population de Del Rio a réagi à toutes ces arrivées ? Là, ce témoignage laisse entendre que la population avait tendance peut-être à venir en aide à tous ces migrants. Est-ce que c'est le cas de la majorité de la population ? Est-ce qu'il y a une frange de la population qui les stigmatise ? Est-ce que ces arrivées sont un sujet qui divise la population de Del Rio ?
Alors, pour tout vous dire, le maire Bruno Lozano est démocrate, mais il a été complètement démuni. Il n'avait aucune réponse de l'administration Biden. Le seul interlocuteur qu'il avait, en fait, c'était le très républicain et conservateur Greg Abbott. Et c'est un peu ce qui se passe également avec la population. Ce que je veux dire, c'est que la population... On a les deux faces. On a ceux qui viennent aider. J'ai rencontré des familles de qui viennent. C'était une famille qui venait de Corée, je crois, qui s'est sentie très 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 touchée par le sort des migrants et qui du coup est venue apporter de la nourriture, des couches, etc. Ensuite, il y a une grosse coalition d'associations qui, grosse à l'échelle de la ville, hein, on parle d'une ville de 35 000 habitants, donc ça reste une petite association, qui organise des collectes d'eau, qui leur donne de l'eau, qui leur donne des jouets, qui leur donne pour les enfants, qui leur donne à manger, qui les aide à faire leurs papiers, etc. Donc voilà, on a une partie de la population qui les aide, mais ça n'a, c'est sans commune mesure avec ce que j'avais vu dans les autres villes frontalières comme Brownsville, Laredo et McAllen au Texas, où là, ce sont des villes de 200 000 habitants et du coup, les associations sont beaucoup mieux organisées, ont beaucoup plus de moyens, mais les gens ont plus tendance à les aider. Maintenant, il y a l'autre pan de la population. Je suis allé voir quand je suis retourné sur au niveau du pont entre Del Rio et la Ciudad Acuña, je suis tombé sur une manifestation. Il y avait bien une cinquantaine de personnes à porter des pancartes qui disaient Biden le traître, Biden le chinois, je protégerai cette frontière. Voilà, c'était très fort. C'était des gens qui sont pour beaucoup latinos et qui ne veulent pas que le Texas soit débordé par les migrants. Et le soir, je suis allé dans un fast-food et là, je suis tombé carrément sur un latino d'une cinquantaine d'années. Il portait une casquette rouge et sur cette casquette, qu'est-ce qu'il avait marqué ? Trump 2024.
Une casquette qui en dit long, en tout cas sur la vision de certains habitants du Texas par rapport à l'accueil de ces migrants. Elisabeth Vallée, est-ce que le Texas a déjà eu par le passé à gérer des crises pareilles ou est-ce que c'est la première de cette ampleur ?
Le Texas est confronté depuis déjà quelques années à un afflux accru de migrants. On l'a vu aussi beaucoup en Arizona. Le Texas la stratégie frontalière des gouvernements successifs a été de dissuader, de prendre une forme de dissuasion de la migration, soit par des discours, comme on l'a vu, de Kamala Harris qui disait « ne venez pas », ou alors à travers des politiques qui sont des politiques liées au mur. Si on construit un mur aux endroits où c'est le plus facile à accéder, bien, espérait-on, on pourrait ralentir le processus migratoire. En fait, tout ce que ça a fait, c'est ce qu'on voit ici. Le Texas était très peu mûri parce qu'il passe le Rio Grande. Et pour avoir nagé dans le Rio Grande, je peux vous dire que les courants sont extraordinairement forts. Je ne suis pas une mauvaise nageuse et je me suis fait peur, au-delà du fait qu'il est extraordinairement pollué et puis que ce n'est pas un premier choix pour nager. Mais pour traverser, donc, c'est loin d'être évident. Donc, on comptait un peu et sur les montagnes et sur le désert et sur le Rio Grande pour dissuader les gens de traverser. Mais alors que la pression migratoire s'accroît parce que ça va beaucoup plus mal en Amérique centrale, les changements climatiques notamment sont une des clés de ces vagues de migration-là. Puis là, on l'a vu avec tous les désastres successifs qui se sont déroulés, comme par exemple en Haïti. Donc on a vu augmenter cette pression dans ces espaces où les frontières étaient entre guillemets moins fortifiées. Et donc on a vu arriver ces gens-là dans des villes texanes. Et Thomas a raison, c'est quelque chose que l'on voit depuis longtemps à El Paso, à McAllen, ou à Brownsville, on connaît le phénomène. Dans un coin comme Del Rio, il y a déjà eu une pression. En fait, des Haïtiens qui arrivent à Del Rio, il y en a depuis le mois de juin, de manière plus importante. Mais là, effectivement, l'afflux est tel et le nombre, en fait. Et on parle beaucoup d'images lorsqu'on parle de ce qui se passe à Del Rio, et c'est probablement le terme le plus important, parce que 14 000 Haïtiens sous un pont, ça représente la moitié de la population de Del Rio, qui, oui, est à 86% hispanique, mais qui peut être tentée d'adhérer à toute cette théorie du grand remplacement. Donc il y a une peur qui est présente, il y a aussi un racisme latent, parce que ce sont là aussi la force des images, ce sont des Noirs qui étaient pourchassés par des hommes blancs à cheval, donc le poids des images est très fort, et donc on ne doit pas minimiser le fait qu'à la frontière se passe une espèce de mise en scène, et que là on regarde ça avec beaucoup d'effarement, mais au fond il n'y a pas si longtemps on séparait des bébés de leurs parents, là aussi au Texas, à McAllen, et on s'est empressé d'oublier ces éléments-là.
Et alors justement, pour répondre à cette pression migratoire, Washington organise depuis dimanche des expulsions massives des Haïtiens qui sont renvoyés par avion dans leur pays. Thomas Harms, comment est-ce qu'elles se passent, ces expulsions ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait combien de personnes ont été renvoyées dans leur pays en Haïti depuis le week-end dernier ?
Alors, un décompte donnerait 1400 Haïtiens qui ont déjà été expulsés vers Haïti. Ce jeudi, il est midi et demi au Texas. Aujourd'hui, 6 vols sont attendus à Haïti. Du coup, selon les calculs, il resterait entre 5000 et 8000 personnes dans le camp sous le pont de Del Rio. Voilà, la plupart des migrants, du coup, ils étaient 15000, ont été envoyés sur d'autres centres, Del Rio, McAllen, Laredo, McAllen et El Paso. Et de là, eh bien, ils sont soit expulsés, soit autorisés à entrer aux États-Unis. J'ai vu des gens qui avaient quand même un bracelet GPS sur le pied, vous savez, comme les, comme sur le mollet,
comme les prisonniers.
Exactement, pour que les autorités de l'immigration puissent savoir où ils se trouvent aux États-Unis, parce qu'on leur donne un laissez-passer de 60 jours en gros, et ensuite ils doivent se présenter aux autorités locales où ils se trouvent, je ne sais pas, dans l'Oklahoma, ou New Jersey, dans Connecticut, et ensuite on saura, ils découvriront quel sort leur est promis. Voilà. Les expulsions, du coup, on n'en sait pas beaucoup plus parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les journalistes sont interdits d'entrer dans les camps. Et aux aéroports également, impossibilité de s'approcher des endroits où sont détenus les migrants pour ensuite être expulsés. Donc, à ce niveau-là, on est complètement dans le flou et encore une fois, les autorités américaines refusent de donner un chiffre précis sur le nombre d'Haïtiens qui sont relâchés aux États-Unis. Et voilà, le seul chiffre que l'on ait vient d'Haïti et ce serait donc 1400 migrants qui ont déjà été expulsés. Mais les autorités haïtiennes attendaient 14 000 personnes.
Et ces expulsions,
elles s'attendent encore à énormément de mandats.
Et ces expulsions, en tout cas, Thomas Harms, elles font beaucoup, beaucoup réagir, hein, même dans le camp démocrate. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'allocution de Joe Biden qui remonte à février dernier. Il donnait le ton sur ce qu'allait être sa politique migratoire.
Nous allons travailler pour effacer la honte morale et nationale de la précédente administration qui a littéralement arraché les enfants des bras de leur famille, de leur père et de leur mère à la frontière, sans avoir aucun plan, aucun pour que ces enfants qui sont toujours en détention puissent retrouver leur famille.
Elisabeth Vallée, Joe Biden avait promis de rompre avec l'ère Trump en matière de politique migratoire à son arrivée au pouvoir. Force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Quelles peuvent être, selon vous, les conséquences politiques pour lui ?
En fait, c'est parce qu'il cherche à minimiser les conséquences politiques. La scène migratoire est une scène qui est extraordinairement polarisée. Et le discours migratoire est pratiquement confisqué par le Parti républicain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui ferait du sens, c'est de rétablir une politique de visa adéquate de manière à ce que les gens puissent effectuer des demandes d'asile avant de quitter l'endroit où ils se situent, peu importe où ils se situent, au lieu d'avoir à faire, comme ils le font aujourd'hui, de devoir se rendre sur le territoire américain pour pouvoir formuler leurs demandes. Donc, il s'est tellement polarisé que Joe Biden ne peut pas adopter une politique plus lâche que ce qui est prescrit par le Parti républicain, qui vraiment appuie sur cet élément-là, et Trump avec lui. Donc, on a une répétition, une continuité extraordinaire de la politique migratoire, notamment, par exemple, à travers l'application du titre 42. Puis peut-être, pour revenir à votre question précédente, c'était intéressant de voir pourquoi est-ce qu'on on expulse en ce moment en grand nombre, c'est parce que le titre 42, qui est une disposition que Trump avait mise en place, avait fait appliquer en invoquant la Covid pour expulser les gens avant même d'étudier leur demande d'asile, même la déposer. En fait, ce titre 42 est appliqué par l'administration Biden et un juge vient de se prononcer et vient de dire qu'ils avaient 15 jours pour mettre leurs affaires en ordre et qu'après, ils ne pourraient plus l'utiliser. Alors, l'administration Biden a fait appel, mais pour le cas où ils perdraient leur appel, ils ont 15 jours pour se, entre guillemets, là, vraiment, je mets des guillemets, se débarrasser du problème. Donc, il y a une volonté d'enlever, se doter ces images de la vue des Américains parce que, justement, ça va être utilisé contre lui et il veut éviter de se retrouver pris à partie avec ça parce que, comme vous le savez, dans une année, on est de nouveau en élections.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en direct avec nous dans Décryptage. Et on imagine bien qu'il y aura aussi possiblement des conséquences à l'échelle régionale. On va en tout cas continuer de suivre la situation sur RFI. Merci beaucoup. Décryptage revient lundi à 17h10, temps universel. Et comme chaque jour, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast.
Priorité santé.